les inconditionnels de l'appendice, les pantouflardes fidèles à la muqueuse et les petites impertinentes qui s'installent tout près de nos cellules intestinales. Faire la connaissance de nos microbes intestinaux n'est pas toujours facile. Ils n'aiment pas vraiment sortir de chez eux. Si on leur installe un petit coin douillet en laboratoire pour pouvoir les observer, ils font grève. Les germes de l'épiderme, eux, mangeraient de bon appétit le menu servi dans les boîtes de pétri et se développeraient jusqu'à former de joyeux petits tas de bactéries. Avec les germes intestinaux, les choses ne sont pas aussi simples. Plus de la moitié des bactéries de notre tube digestif sont tellement habituées à nous qu'elles ne peuvent pas survivre ailleurs. Notre intestin est leur foyer. Elles y sont à l'abri de l'oxygène. Elles aiment sa moiteur tiède et apprécient la cuisine pré-mâchée qu'on y sert. Il y a 10 ans, un bon nombre de scientifiques auraient encore affirmé qu'il existait un stock défini de bactéries à peu près identique chez tous les êtres humains. Quand ils étalaient un échantillon de sel sur un milieu de culture, ils trouvaient par exemple toujours des bactéries E. coli. Tout cela était d'une simplicité enfantine. À l'heure actuelle, nous avons des appareils qui nous permettent d'explorer la sphère moléculaire d'un gramme d'excréments. Et nous trouvons ainsi les résidus génétiques de milliards de bactéries. Nous savons aujourd'hui qu'E. coli ne constitue même pas 1% de l'ensemble des organismes présents dans l'intestin. L'intestin grêle et le gros intestin abritent plus d'un millier d'espèces de bactéries différentes. Sans oublier les minorités que sont les virus et les levures, ou encore les champignons et différents organismes unicellulaires. Notre système immunitaire devrait être le premier à s'opposer à cette colonisation de grande envergure. Sur sa liste de choses à faire, on trouve en effet, en assez bonne position, défendre le corps contre les intrus. Le système immunitaire combat parfois de minuscules pollens qui se sont égarés dans nos narines. Chez les allergiques, la réaction ne se fait pas attendre. Yeux rouges et nez qui coule. Mais alors, comment notre corps accepte-t-il que les bactéries rejouent chaque jour Woodstock dans nos entrailles? Chapitre 13. Le système immunitaire et les bactéries. L'occasion de mourir nous est donnée plusieurs fois par jour. Le cancer nous assaille, la moisissure se propage, des bactéries nous grignotent et des virus nous infectent. Et plusieurs fois par jour, on nous sauve la vie. Les cellules bizarres qui prolifèrent sont massacrées, les spores de champignons exterminés, les bactéries passées à la moulinette et les virus pourfendus. Ce service attentionné, c'est notre système immunitaire qui nous le rend, avec l'aide de nombreuses petites cellules. Il a sous sa direction des experts spécialisés dans la reconnaissance de l'envahisseur, des tueurs à gages, des chapeliers et des pacificateurs. Tout ce petit monde travaille ensemble et on peut dire qu'il fait rudement bien son boulot. La majeure partie, environ 80% de notre système immunitaire, est localisée dans notre intestin. Et ce n'est pas pour rien. C'est là qu'a été montée la scène principale de notre Woodstock bactérien. Et quand on est un système immunitaire, on ne peut pas rater ça. Les bactéries se tiennent ici dans un réservoir circonscrit, la muqueuse intestinale, et ne menacent pas nos cellules puisqu'elles s'en tiennent à bonne distance. Le système immunitaire peut donc faire mumuse avec elles, sans que cela devienne dangereux pour nous. Et nos cellules immunitaires font ainsi la connaissance de nouvelles espèces de bactéries. Par la suite, en dehors de l'intestin, quand une cellule immunitaire rencontrera une bactérie connue, elle pourra réagir plus vite. Dans l'intestin même, le système immunitaire doit être très attentif. Il lui faut sans cesse réprimer son instinct de défense pour ne pas exterminer toutes les bactéries qui s'ébattent dans le coin. En même temps, il doit détecter dans la masse les organismes trop dangereux et les isoler du reste. Si nous prenions le temps de dire salut à chacune de nos bactéries intestinales, nous en serions quittes pour environ 3 millions d'années. Notre système immunitaire, lui, ne se contente pas de leur dire « salut ». Il ajoute encore « je te trouve très sympa » ou « je te préfère morte ». En outre, et cela peut paraître étrange à première vue, il doit aussi faire la distinction entre les cellules des bactéries et nos propres cellules humaines. Ce n'est pas toujours facile. Certaines bactéries sont recouvertes de structures qui ressemblent à celles de nos cellules corporelles. En présence de bactéries responsables de la scarlatine, par exemple, mieux vaut ne pas trop tarder à prendre des antibiotiques. Si la maladie n'est pas combattue à temps, le système immunitaire déboussolé pourrait attaquer sans le vouloir des articulations ou d'autres organes. Aux aguets, il prendrait par exemple notre genou pour un méchant agent pathogène responsable des maux de gorge. Ça n'arrive que rarement, mais c'est possible. Des chercheurs ont décrit un processus similaire pour le diabète quand il se déclare chez l'enfant ou l'adolescent. Le système immunitaire détruit alors les cellules du corps qui produisent de l'insuline. L'une des causes possibles pourrait être un dysfonctionnement de la communication avec nos bactéries intestinales. Elles sont peut-être de mauvais professeurs ou bien c'est notre système immunitaire qui comprend mal ce qu'elles lui disent. En principe, notre corps dispose d'un système très rigoureux de lutte contre les couacs de communication et autres malentendus. Avant d'être autorisée à passer dans le sang, une cellule immunitaire doit ainsi participer à un camp d'entraînement, le plus dur qui soit pour les cellules. Elle doit par exemple courir une sorte de trail lors duquel elle sera en permanence confrontée à des structures propres à notre corps. Quand une cellule immunitaire ne sait pas très bien si ce qui croise son chemin appartient au corps ou si c'est un intrus, elle s'arrête et enfonce brièvement son doigt dedans. Erreur fatale! Cette cellule immunitaire n'arrivera jamais dans notre sang. Le camp d'entraînement permet donc de pratiquer en amont une sélection des cellules immunitaires. Si elles ont le malheur d'attaquer leur propre bande, c'est la fin pour elles. Au cours de leur stage dans l'intestin, elles apprennent à se montrer tolérantes envers les intrus, ou plutôt à mieux réagir à leur venue. C'est un système qui fonctionne assez bien et, en général, les incidents sont rares. L'une des épreuves à passer est particulièrement difficile. Qu'arrive-t-il quand, pour le système immunitaire, les intrus ont l'air de bactéries mais n'en sont pas? Les globules rouges, par exemple, présentent en surface des protéines qui ressemblent aux bactéries. Et si, pendant le camp d'entraînement, on n'avait pas rabâché à notre système immunitaire « touche pas à mon sang », il aurait tôt fait de les attaquer. Quand nos globules affichent en surface les caractéristiques du groupe sanguin A, nous tolérons aussi le sang d'autres personnes de groupe A. C'est pratique. Quand on perd du sang suite à un accident de moto ou à une naissance, on est bien content de pouvoir faire couler dans nos veines un peu du sang dont un inconnu aura eu la gentillesse de faire don. Impossible en revanche d'utiliser le sang d'un donneur dont les globules portent en surface des caractéristiques sanguines différentes. Notre système immunitaire y verrait aussitôt des bactéries et, comme les bactéries n'ont rien à faire dans notre sang, il se jetterait joyeusement sur les globules étrangers pour en faire de la chair à pâté. Sans ce caractère offensif, développé au contact de nos bactéries intestinales, il n'y aurait pas de groupe sanguin et tout le monde pourrait utiliser le sang de tout le monde. Pour les nouveau-nés, c'est encore ainsi que les choses fonctionnent, car ils ont peu de germes intestinaux. Théoriquement, on pourrait les transfuser avec n'importe quel groupe sanguin sans déclencher de réaction. Mais comme les anticorps de la mère pénètrent dans le sang de l'enfant à l'hôpital, on utilise par précaution le groupe sanguin de la mère. À partir du moment où le système immunitaire et la flore intestinale se sont à peu près mis en place, il n'est plus possible d'utiliser que du sang du même groupe sanguin. Le développement du groupe sanguin n'est que l'un des nombreux phénomènes immunologiques induits par les bactéries. Et il est très probable que beaucoup nous soient encore inconnus. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'action des bactéries est le plus souvent à classer dans la catégorie « réglage de précision ». Chaque sorte de bactérie a des effets très divers sur le système immunitaire. Nous avons pu constater que certaines espèces rendaient notre système immunitaire plus tolérant. Par exemple, en veillant à ce que la production de cellules immunitaires pacifiques soit augmentée, ou encore en agissant comme de la cortisone ou d'autres médicaments anti-inflammatoires sur nos cellules. Résultat, le système immunitaire est plus détendu et moins belliqueux. Un trait de génie de la part de ces micro-organismes. Leurs chances d'être tolérées dans l'intestin sont ainsi augmentées. À l'inverse, des bactéries ayant un effet stimulant sur le système immunitaire ont été mises en évidence dans l'intestin grêle de jeunes vertébrés, dont l'être humain. Une découverte qui ouvre la porte à bien des suppositions. Se pourrait-il que ces petits stimulateurs nous aident à maintenir une plus faible densité bactérienne dans l'intestin grêle? Celui-ci constituerait alors une zone de faible tolérance aux bactéries et pourrait digérer au calme. En outre, les petits stimulateurs ne s'installent pas tranquillement dans la muqueuse. Ils s'accrochent aux villosités intestinales. Une habitude qu'ont aussi certains agents pathogènes, comme les variantes dangereuses de coli. Quand celles-ci veulent coloniser l'intestin, la place est déjà prise et elles n'ont plus qu'à passer leur chemin. C'est ce qu'on appelle la résistance à la colonisation. La plupart de nos microbes intestinaux ont un effet protecteur, induit par le simple fait qu'ils ne laissent pas de place aux vilaines bactéries. Les stimulateurs de l'intestin grêle font d'ailleurs partie des candidats que nous n'avons toujours pas réussi à élever hors de l'intestin. Pouvons-nous dire avec certitude qu'ils ne nous nuisent pas? Non. Peut-être nuisent-ils à certains d'entre nous en stimulant outre mesure notre système immunitaire. Les questions sont encore loin d'être toutes résolues. Les souris stériles des laboratoires de New York nous apportent cependant quelques éléments de réponse. Ces souris sont les animaux les plus propres du monde. Naissance stérile par césarienne, cage désinfectée au chlore et alimentation stérilisée à la vapeur. Jamais on ne trouvera dans la nature des animaux ainsi vierges de tout germe. Pour travailler avec ces souris, il faut prendre des précautions énormes. Un souffle d'air non filtré, et c'est déjà toute une équipe de germes qui s'invite. Grâce à ces souris, les chercheurs peuvent observer ce qui se passe quand un système immunitaire est au chômage technique. À quoi ressemble un intestin sans microbes ? Comment le système immunitaire vierge de toute expérience réagit-il à des agents pathogènes? Y a-t-il des différences visibles à l'œil nu? Toute personne qui a eu affaire à ces animaux pourrait vous le dire. Les souris stériles sont un peu bizarres. Elles sont souvent hyperactives et, pour des souris, elles se montrent très casse-cou. Par rapport à leurs congénères habités, elles mangent plus et mettent plus de temps à digérer. Elles ont des appendices énormes, des intestins rabougris, sans villosité et peu de cellules immunitaires. Des agents pathogènes relativement peu dangereux suffisent à les terrasser. En leur injectant un cocktail de bactéries provenant d'autres souris, on peut observer des effets étonnants. Quand on leur administre des bactéries de sujets diabétiques de type 2, les souris de laboratoire développent rapidement les premiers problèmes de métabolisation des sucres. Quand on leur administre les bactéries intestinales de sujets en surpoids, leur tendance à l'embonpoint augmente aussi. Autre axe de la recherche, on peut les confronter à une seule bactérie pour observer l'incidence de celle-ci. Certaines bactéries peuvent à elles seules annihiler tous les effets de la vie sous cloche. Elles activent le système immunitaire, redonnent à l'appendice sa taille normale et régulent le comportement alimentaire. D'autres bactéries n'ont aucun effet. D'autres encore ne développent leur capacité qu'en interaction avec leurs collègues issus d'autres familles. Grâce à ces études menées sur des souris, nous avons fait beaucoup de progrès dans notre compréhension du microbiote. Nous pouvons désormais formuler cette hypothèse. Tout comme nous sommes influencés par le grand monde dans lequel nous vivons, le petit monde qui vit en nous nous influence aussi. Et ce qui rend les choses encore plus passionnantes, c'est que ce petit monde n'est pas le même chez chacun d'entre nous. Chapitre 14. À l'aube de la flore intestinale. Dans le ventre de nos mères, nous sommes en général dépourvus de tout germe. Pendant 9 mois, nous ne sommes en contact avec rien ni personne d'autre que notre mère. Nos aliments sont prédigérés, notre oxygène pré-respiré, les poumons et les intestins maternels filtrent tout ce qui parvient jusqu'à nous. Nous mangeons et respirons par l'intermédiaire du sang de maman, maintenu stérile par son système immunitaire. Nous sommes enveloppés dans la poche des os et enfermés dans un utérus musculeux, lui-même fermé comme une jarre, par un gros bouchon muqueux. Aucun parasite, aucun virus, aucune bactérie, aucun champignon et, bien sûr, aucun autre être humain ne peut ainsi être en contact avec nous. Nous sommes plus propres qu'une table d'opération après qu'on l'a passée au jet désinfectant. C'est une situation atypique. Jamais plus au cours de notre vie, nous ne serons aussi isolés et protégés. Si nous étions conçus pour rester stériles hors de l'utérus maternel, nous ne serions pas faits de la même manière. Mais les choses étant ce qu'elles sont, chaque être vivant de taille respectable accueille au moins un autre être vivant qui l'aide et qui, en échange, a le droit de s'installer chez lui. Voilà pourquoi nous avons des cellules dont la surface est très bien adaptée à la fixation des bactéries. Et des bactéries qui, au cours des millénaires, se sont développées avec nous. À peine la poche des os perd-elle son imperméabilité que la colonisation commence. Il y a un instant, l'enfant à naître était encore un être formé de cellules 100% humaines, et voilà qu'en un rien de temps, il est colonisé par tant de micro-organismes qu'au niveau de la numération cellulaire, on peut dire qu'il est humain à 10% et microbe à 90%. Nos cellules humaines étant nettement plus grosses que celles de nos nouveaux sous-locataires, cette répartition n'est heureusement pas visible. Avant que nous ne plongions pour la première fois notre regard dans celui de notre mère, ses sous-locataires à elle nous ont d'abord regardé dans les yeux. Pour commencer, nous faisons la connaissance de sa flore vaginale, un petit peuple qui défend comme une armée un territoire très important. Ce petit peuple fabrique par exemple des acides qui font fuir d'autres bactéries. Il garantit ainsi l'hygiène de la voie qui mène à l'utérus, de plus en plus propre au fur et à mesure qu'on approche du but. Tandis que la flore nasale compte quelques 900 espèces de bactéries différentes, au niveau de la filière pelvienne, c'est-à-dire la voie naturelle par laquelle passe le fœtus pour naître, on pratique une sélection rigoureuse. Ce qui reste, c'est un doux manteau de bactéries qui enveloppe le corps propre du bébé pour le protéger. Ces bactéries se composent pour moitié d'un seul genre, les lactobacilles. Leur activité favorite est de produire de l'acide lactique. Et ça tombe bien, puisque pour survivre dans ces contrées, il faut avoir passé les contrôles de sécurité acide mis en place. Si tout se passe bien, il ne reste plus à l'enfant qu'à décider dans quelle direction il veut regarder. Il y a 2 possibilités sympas, vers les fesses ou de l'autre côté. S'ensuivent toutes sortes de contacts épidermiques jusqu'à ce que le bébé soit attrapé par 2 mains vigoureuses, le plus souvent étrangères et vêtues de gants en caoutchouc, puis enveloppées dans une autre sorte de manteau protecteur. Et voilà, les pères fondateurs de notre première colonisation microbienne sont désormais en nous et sur nous. La communauté recensée se compose principalement d'exemplaires de la flore vaginale et intestinale maternelle, de germes cutanés et d'une sélection de ce que l'hôpital a en ce moment à proposer. C'est un très bon mélange pour commencer. L'armée acide nous protège contre de vilains envahisseurs. D'autres bactéries commencent déjà les séances d'entraînement du système immunitaire et des germes serviables décompose pour nous les premiers éléments non digestibles du lait maternel. Certaines de ces bactéries n'ont besoin que d'une 20aine de minutes pour mettre au monde la génération suivante. Ce que nous faisons en 20 ans et plus ne dure ici qu'un instant. un instant aussi microscopique que nos sous-locataires eux-mêmes. Et tandis que notre première bactérie intestinale voit barboter non loin d'elle son arrière petite fille, nous sommeillons dans les bras de ceux qui sont devenus nos parents 2 heures plus tôt. Si l'évolution démographique est rapide, 3 ans environ seront encore nécessaires pour qu'une flore adaptée trouve son équilibre dans nos intestins. En attendant, notre abdomen est le théâtre de luttes de pouvoir sans merci et de batailles bactériennes à grande échelle. Certains des peuples que nous avons avalés d'une manière ou d'une autre se développent à la vitesse de l'éclair dans notre ventre, pour en disparaître ensuite aussi vite qu'ils sont venus. D'autres resteront toute leur vie à nos côtés, ou plutôt entre nos côtes. D'ailleurs, c'est de nous que dépend en partie le type de population que nous abritons. Nous têtons notre mère, nous nous faisons les dents sur un barreau de chaise, nous embrassons la vitre de la voiture ou le chien du voisin. Tout ce qui parvient dans notre bouche de cette manière pourrait peu après étendre son empire sur nos entrailles. Qui sait si l'organisme en question est capable de s'imposer? Et s'il vit en ami ou en ennemi? Nous construisons notre avenir à pleine bouche, et un échantillon de sel nous renseigne sur le dénouement. C'est un jeu dans lequel interviennent beaucoup d'inconnus. Pas de panique. Plusieurs facteurs sont là pour nous aider, à commencer par notre mère. Quel que soit le nombre de bisous qu'on fait au chien du voisin, quand on a souvent la possibilité de bécoter sa maman, on est bien protégé par les microbes maternels. Avec l'allaitement, elle peut aussi favoriser certains germes spécifiques de la flore intestinale, comme les bifidobactéries, friandes de lait maternel. À travers une colonisation précoce, ces bactéries influent sur des fonctions corporelles qui interviendront plus tard, comme le système immunitaire ou le métabolisme. Un enfant qui n'a pas assez de bifidobactéries dans le ventre pendant la première année de sa vie a plus de risques d'être plus tard en surpoids que s'il en a beaucoup. Parmi tous les genres de bactéries, il y en a des bons et des moins bons. Avec l'allaitement, on peut faire pencher la balance du côté des bonnes bactéries et, par exemple, réduire le risque d'intolérance au gluten. Les premières bactéries intestinales du bébé préparent l'intestin à ces bactéries plus adultes, en éliminant l'oxygène et les électrons qui s'y trouvent. En l'absence d'oxygène, certains microbes plus typiques peuvent alors s'installer. Quand elle est à peu près bien nourrie, une mère qui allaite peut faire aveuglément confiance au lait maternel. En matière d'alimentation saine, il est ultra compétent. Si l'on quantifie les nutriments qu'il contient et qu'on les compare aux besoins calculés pour les enfants, le lait maternel arrive en tête des aliments pour nourrissons. Il a tout, il sait tout, il peut tout. Et comme si la teneur en nutriments ne suffisait pas, il marque encore des points en fournissant aussi à l'enfant une dose de système immunitaire maternel. Les sécrétions de lait maternel contiennent des anticorps capables de parer à des rencontres bactériennes trop nuisibles. Lors des embrassades avec le chien du voisin, par exemple. Au moment du sevrage, l'univers microbien du bébé connaît une première révolution. La composition de la nourriture change soudain du tout au tout. Mais la nature fait bien les choses. Parmi les premiers germes colonisateurs, ceux qui aiment bien le lait maternel ont aussi dans leur bagage des gènes adaptés aux glucides simples, comme le riz. Si l'on sert tout de suite aux nourrissons des végétaux complexes, comme les petits pois, la flore enfantine a besoin d'aide. Il s'ensuit une sorte d'appel d'offres pour embaucher de nouveaux assistants de digestion. Selon le type d'alimentation, ces bactéries peuvent acquérir des compétences ou en donner. Un bébé africain, par exemple, dispose de bactéries qui fabriquent toutes sortes d'outils pour cliver une nourriture très riche en fibres et en végétaux. Chez l'enfant européen, les microbes renoncent en général à cette tâche difficile. Et ils peuvent le faire l'esprit tranquille, puisqu'on leur sert surtout des bouillies et un peu de viande. Les bactéries sont capables non seulement de fabriquer certains outils quand c'est nécessaire, mais aussi d'en emprunter. Dans la population intestinale japonaise, les bactéries de l'intestin ont fait leur course auprès de bactéries marines. Elles ont emprunté à leurs collègues un gène qui leur permet de mieux scinder les algues dont on enveloppe par exemple les sushis. L'organisation de notre population intestinale peut donc dépendre en bonne partie des outils dont nous avons besoin pour assimiler notre nourriture. Quand elle s'avère utile, nous pouvons transmettre des bactéries sur des générations et des générations. Si l'un de nos ancêtres a eu un jour la chance de faire la connaissance des bactéries japonaises dévoreuses d'algues, cela peut nous éviter, en tant qu'Européens, d'être victimes de constipation après un buffet asiatique à volonté, où nous nous serons remplis la panse de sushis. Encore que, ce n'est pas si simple d'inviter chez soi et chez ses enfants des assistants de digestion spécialisés dans les sushis. Car les bactéries doivent se plaire sur leur lieu de travail. Un micro-organisme est particulièrement bien adapté à notre intestin quand il aime l'architecture de nos cellules intestinales, supporte bien le climat et apprécie la cuisine qu'on y sert. Ces trois facteurs diffèrent d'un individu à l'autre. Si nos gènes participent bien sûr au développement de notre corps, quand il s'agit de l'organisation microbienne, ils ne sont pas les chefs de chantier. Les vrais jumeaux ont ainsi le même patrimoine génétique, mais pas la même population bactérienne. À ce niveau, ils n'ont même pas plus de points communs que d'autres fratries. Car ce qui détermine l'aspect et la nature de notre petite planète intérieure, c'est aussi notre mode de vie, nos loisirs, des rencontres fortuites ou des maladies. Avant de disposer d'une flore intestinale relativement mature, vers l'âge de 3 ans,